Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Marc-André Leclerc, il ne fait aucun compromis. Cube Radio.
J'avais bien hâte d'aller rejoindre Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Guillaume.
Bonjour Marc-André.
Guillaume, on va s'attarder un petit peu à ce qui se passe du côté du Brésil, élection présidentielle. Et là-bas, autant la gauche populiste que la droite populiste se battent et se battent pour le vote évangéliste.
Alors, ça fait beaucoup de choses. Le Brésil, c'est véritablement cette espèce de géant de l'Amérique du Sud, un pays de 212 millions d'habitants, et membre du G20, mais aussi membre du club des... un peu en retrait de l'Occident, le BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Et présentement, le président brésilien qui se représente, on l'appelle vraiment l'espèce de Trump du Sud, là. C'est Jair Bolsonaro, populiste au possible, pacte avec une espèce de hyper-droite nationaliste, assez tolérant, ça accommode très bien de l'approche de Vladimir Poutine. Vraiment, là, on est dans la dérive des démocraties illibérales. Et il y avait une espèce d'approche qui pourrait nous scier là, par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans le discours. Avoir une approche en disant les criminels, il faudrait tous les tuer. Très, très, très marqué à droite dans une approche nationaliste. Et surtout, par rapport au COVID, il était de ceux... Écoutez, le Brésil, il peut pas y avoir de hasard, là. Avait un des taux de mortalité les plus élevés sur la planète par rapport au COVID. Et son président était... Écoutez, par rapport à Bolsonaro, Trump avait l'air du directeur de la santé publique. Là. Ça vous en donne un peu une idée. C'est-à-dire, je me fais pas vacciner. C'est une affaire de grippe. Si vous faites vacciner, vous pourriez vous transformer en crocodile. On est dans une espèce de version mal dégrossie de Trump. Et il se représente. Et là, contre lui, c'est le retour du populiste de gauche. Luis Ignacio da Silva, celui qu'on appelait Lula, tente un retour. Et lui, il est en avance dans les sondages, ce qui surprend quelque part. Et ce qui est fascinant, c'est que les deux sont à la course après un électorat qui est en croissance phénoménale au Brésil. Et on pourrait dire, le Brésil, voyons, c'est la terre naturelle des catholiques. C'est un pays hyper catholique, de moins en moins. Dans moins d'une génération, il y aura plus de protestants que de catholiques. Et parmi les protestants, la vaste majorité d'entre eux sont des évangélistes. Donc, plus conservateurs, très impliqués en politique. Et ce vote-là était massivement allé du côté de Bolsonaro la dernière fois. Là, vous avez des images que vous verriez aux États-Unis, c'est-à-dire le festival du politicien qui se réunit avec d'autres pour prier en public. C'est vraiment qui peut avoir l'air le plus proche de Dieu parmi les candidats. Et là, il se fait faire le coup. Ils étaient beaucoup derrière Bolsonaro la dernière fois. Et là, Lula a décidé de le compétitionner du côté de la bondieuserie. Et on est dans des choses qui nous semblent complètement surréalistes. Par exemple, Lula, qui accuse son adversaire d'être, et là, je vais essayer de le citer, possédé par le démon.
Alors, oh boy, OK.
Ça, j'ai vu ça souvent dans la politique contemporaine de dire que son adversaire est possédé par le démon. Et ça, il y a une certaine prise là-dedans, là. Et là, la grande question, parce que tout ça est un langage codé, c'est tout le monde regarde du côté américain. Et là, permettez-moi un détour en 1960. Nixon erre par un cheveu par rapport à Kennedy. Les rumeurs de fraude sont très claires. Il y a probablement un cas de fraude qui aurait pu faire pencher l'élection. À l'époque, c'était l'élection la plus serrée de l'histoire. Tout le monde dit à Nixon, conteste l'élection. Et Nixon va dire, par sens de l'État, Je ne peux pas faire ça parce que ça va immobiliser la passation du pouvoir pendant des semaines, voire des mois. Mmh. Et on ne peut pas se permettre, nous, les États-Unis, de montrer au reste du monde que notre système ne fonctionne pas bien. Et c'est le grand argument qui va faire que Nixon va reconnaître le résultat d'une élection qu'on lui a probablement volée. Évidemment, vous voyez que Trump se comporte pas comme ça, là. Mm-hmm. Maintenant, c'est l'idée de les États-Unis sont un exemple dans le bon comme dans le mauvais. Et Bolsonaro annonce déjà que si jamais il ne gagne pas, il va pas accepter, et là vous voyez le code, de se faire voler l'élection. Et on est vraiment ici dans une dérive illibérale de méfiance envers les institutions qui n'est pas limitée aux portions les plus à droite aux États-Unis ou les plus populistes aux États-Unis, mais qui commence à faire école ailleurs. Et ça, c'est très inquiétant pour la suite des choses. Alors, on va suivre cette élection-là. Oui. Et pour ça se passe en octobre. Surveiller la grande question et le test des démocraties matures. Est-ce que le perdant accepte son sort au nom d'une foi plus grande dans l'institution que dans le résultat de sa propre campagne?
Et comment tu penses, Guillaume, comment tu penses que l'élection va influencer la, tu sais, ce qui s'abrase beaucoup sur la scène internationale? Est-ce que tu penses que cette élection-là peut avoir un impact autant sur le continent ici que sur l'échiquier mondial?
Ce serait intéressant de voir comment le Brésil continuera à se positionner par rapport au conflit Ukraine-Russie qui laisse aucune économie importante de côté. Le Brésil, c'est un, quand vous êtes 200 quelques millions de citoyens, c'est un méga importateur et un méga exportateur. À date, le Brésil a plutôt refusé cette idée de boycott tranché contre la Russie de Vladimir Poutine. Au contraire, il s'en accommode assez bien. Alors, la grande question, c'est s'il y avait un virage vers une gauche plus populiste, est-ce qu'on verrait le Brésil se tourner contre la Russie de Vladimir Poutine, même si ça a des impacts économiques négatifs ou nocifs pour lui? Ou encore, on s'amusera à jouer l'entre-deux, un peu comme le font l'Inde, la Chine, la Turquie, le Brésil. Ça fait quand même des gros joueurs là, sur le plat. Alors, on va suivre ça de manière intéressante. Mais à date, la grande question, c'est est-ce que la dérive populiste que l'on voit aux États-Unis, qui a des impacts chez nous, regardez la campagne de Poilievre, est-ce que ça, vraiment, on a un nouvel exemple qui va émerger, là, tu sais pas rien, d'un géant sud-américain?
Et Guillaume, si on regarde, si on laisse le Brésil puis on regarde du côté de l'Europe, là, pendant qu'ici au Canada et aux États-Unis, on sent que l'inflation là, semble s'essouffler, en tout cas du moins pour l'instant, en Europe, là, c'est pas la même chose.
Non, et là-dessus, ici, si on pourrait avoir cette idée que là, on peut commencer à souffler, que l'inflation s'essouffle justement parce qu'elle a baissé d'un demi-point de pourcentage, nos économies sont tellement reliées maintenant qu'il faut jamais se réjouir que ça va bien chez nous parce que le feu est pris chez le voisin. Parce qu'à un moment donné, vous allez avoir des effets de la fumée, là. Et regardez, par exemple, en Europe, évidemment, on se dirige en plein hiver vers une Europe continentale et sa plus grande économie, l'Allemagne, qui pourrait devoir, sans faux jeu de mots, subir les coups d'une guerre froide et qui pourrait avoir une récession en Allemagne qui serait extraordinairement préoccupante. Mais ces pays-là, que ce soit l'Espagne, la Grèce, l'Allemagne, se trouve avec bientôt un taux d'inflation à 10 %. Et si c'était comme pas assez, l'autre grande économie de l'Europe, le Royaume-Uni, qui en finit plus de payer le prix de sa folie du Brexit, est déjà à 10 % d'inflation. Et la Banque d'Angleterre vient d'annoncer que, selon elle, si la fin de 2022, il en reste plus tant que ça, on pourrait aller jusqu'à 13 %. Mmh. Et là, on tombe dans des zones où l'inflation nourrit l'inflation. Et normalement, la seule chose qui peut calmer cette chose-là, c'est une récession ou encore une diminution des dépenses publiques qui avait été la recette d'à peu près tous les gouvernements dans les années 80. Mais là, ce que l'on voit, c'est que les gouvernements, pour couper les jambes à l'inflation, font des gestes contre nature, c'est-à-dire d'envoyer des chèques aux gens pour les aider à faire face à l'inflation. Mais là, ça, c'est comme de dire, je veux lutter contre l'inflation, alors je veux augmenter les dépenses de consommation. Alors, c'est vraiment ici une politique contre-productive et les conservateurs anglais, pour rester au pouvoir, se battent à savoir jusqu'à combien ils vont envoyer des chèques aux gens pour faire face à l'inflation, notamment le coût de l'énergie. On en parlait plus tôt chez Cube, qui pourrait augmenter les dépenses des ménages en énergie de 1 000 à 1 500 par année, par ménage, quand même pas rien, ou encore de rivaliser d'agressivité dans la baisse des impôts. Ben, ces choses-là vont avoir des impacts majeurs. Alors, même si nous, ça semble aller un peu mieux, même que les nouvelles américaines sont troublantes, font tomber je ne sais pas combien de prédictions des économistes, l'Union européenne tombait dans une espèce de mauvais duo de récession et d'inflation, ce ne sera pas trop long que les impacts se feront sentir ici aussi. Alors, il est peut-être trop tôt pour dire « Fiou, on y a échappé ». Il faut rester extraordinairement vigilant sur la suite des choses.
Oui, vraiment, ça va être à surveiller. Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Merci, Guillaume. On se reparle demain.
Au plaisir.